L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
Ce qui est important, de la plante jusqu'au consommateur, jusqu'à l'amateur, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à celui qui va goûter les produits. On a les retours, ils ne sont pas forcément tous flatteurs, mais on rencontre son public, quoi. Et ça, c'est intéressant, quoi. On a un retour direct sur la production qui ne se passe pas uniquement par j'ai vendu mes hectos à 50 euros, 60 euros, ils sont partis je ne sais pas où, ils seront transformés en je ne sais pas quoi. Là, on les sert dans un verre, on les goûte, on les partage. On n'aime pas, je veux ton blanc, ton rosé, ton rouge. Donc on a un retour direct, ça c'est quand même très intéressant, quoi. Je suis Thierry Arcier, on est ici à Saint-Pargoire dans ma cave. Je cultive la vigne depuis 2002, première récolte à mon nom. Je fais un petit peu de vin, c'est-à-dire que je vis jusqu'à la transformation depuis 2016. Je me suis installé sur la base de vignes familiales, ce qui facilite beaucoup le parcours. Et puis petit à petit, j'essaye encore de trouver mon propre chemin. Voilà.
Alors, sur une exploitation de combien d'hectares?
Actuellement, il y a 8 hectares sur le plan cadastral, mais il y a beaucoup de très vieilles dames où il n'y a plus beaucoup de souches à l'hectare, qu'on m'a confié, ou que le voisin, comme elle datait du temps du cheval, ne permettait pas une mécanisation facile. Donc je les ai prises, elles me donnent quelques grappes et quelques jus un peu particuliers. Mais sur le papier, il y a une huitaine d'hectares. Il y a aussi, j'ai planté il y a une quinzaine d'années, des oliviers qui commencent à rentrer en production quand ils voudront bien. Petit verger, quelques amandiers. Il y a disons 2 hectares de vergers diversifiés, oliviers, amandiers, grenadiers, pommiers... Voilà.
C'est l'avenir, ça, un peu, de se diversifier?
C'est le seul moyen de mettre un petit peu de valeur ajoutée dans la bouteille ou de valoriser chaque étape du travail. C'est pas qu'on est plus riche, mais on a dans chaque action l'espoir de mettre un peu de revenus. Tandis que quand on est juste producteur de matières premières, on est totalement tributaire via nos coopératives du bon vouloir du marchand qui récupérera le prix qu'il veut, tandis que là, à chaque étape, on essaye de valoriser son travail.
Et puis c'est de faire le métier de A à Z aussi, c'est de partir de la plante pour aller jusqu'au produit à consommer.
Il y a une des cuvées que je fais où je suis allé de la plantation en 2005 jusqu'à la bouteille, là c'est la Marsanne, mais après les autres, elles ont été plantées à l'époque de mes grands-parents ou avant. Il y a ce plaisir-là, mais c'est un coût pas forcément financier. C'est qu'on essaie de tout maîtriser et on ne peut pas être forcément bon à toutes les étapes.
C'est un retour aux sources là que les viticulteurs redeviennent vignerons?
C'est une nécessité quand le prix du vrac n'est pas rémunérateur. C'est une nécessité. Moi, j'ai commencé, mon exemple, je ne dis pas que ce que j'ai fait vaut leçon pour tous, mais j'ai fait des expériences, des vignes qui étaient bonnes à arracher, elles ne produisaient vraiment pas grand-chose. Donc, je ne pouvais pas avoir un volume minimum pour espérer couvrir les frais par ma copée. Donc, j'ai dit, j'ai fait un essai de vinification, de micro-vinif. On l'a essayé avec les copains, ils ont dit, c'est bon, on ne va pas arracher la vigne. Bon, ok. J'ai essayé ça sur une Syrah, sur le Carignan, sur le Cinsault, que je vinifie depuis, sauf si c'est les sangliers qui le mangent. Donc, il y avait un peu cette nécessité, parce que sinon, c'est une course. Soit on suit le train industriel. On s'équipe, on essaie de s'agrandir, faut des machines, faut de l'investissement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, hein. Mais uniquement un seul boulot qu'il faut faire à fond, à fond, à fond, en suivant ce que veut le marché, quoi. Donc des machines, de l'argent de dingue. Pour une idée, l'endroit où on se trouve, entre le prix du bâtiment et tout le bazar qu'il y a dedans, c'est le prix d'une machine à vendanger. Moi, c'est une machine à faire du vin, quoi. Mais je crois que même une machine à faire du vin à moins de 100 000 euros, neuve, on n'en trouve pas.
On a en face de soi celui qui consomme, donc la fierté ou le mauvais résultat.
Peut avoir des douches un peu froides de temps en temps. Moi, mes premières rencontres, il y a de temps en temps, j'ai fait des rencontres, ce sont devenus des copains, où il y a des cavistes avec qui j'ai des relations amicales dans le coin, qui m'ont encouragé. Des particuliers, des copains, mais puis de temps en temps, on arrive, on te regarde, on dit qu'est-ce que c'est ce truc ? Écoutez, ouais, bon, passez votre tour, quoi, ça ne va pas. Il y a des choses qui ont été à l'unanimité ratées, parce que on ne peut pas apprendre à transformer le raisin en vin dans des bouquins. Là, les méthodes industrielles, oui, on trouve, on achète des levures, on suit un process, un peu comme la viticulture, quand je me suis installé il y a 22 ans, on ne sait pas comment faire, on va chez le marchand, et il vous dit comment faire, et ça vous fait de vous un agriculteur. Tandis que là, on essaye, et puis on rencontre d'autres vignerons, et c'est cette école-là qui vous dit que non, le vin, t'es pas obligé d'attendre que le raisin soit surmûri, sinon après tu auras des problèmes de fermentation, il va partir dans tous les sens. Donc voilà, on essaie de s'adapter. Et c'est l'échange avec les collègues, hommes et femmes, qui disent « moi je fais comme ça, ça marche un peu, il faut de l'acidité, on est dans le midi, souvent le soleil grille tout ». Dans ces cas-là, on ne va pas vendanger.
Ça renouait un peu les relations entre les vignerons, entre eux.
Quelque part, oui. Après, les vins avec que du raisin ou presque, on doit représenter une fraction de pourcentage de la production locale ou mondiale. Et on est quelques pincés. Sur Saint-Pargoire, on est 2-3 à être indépendants. Mais voilà, on ne représente pas grand-chose par rapport au marché. On s'entraide, on se connaît, on se croise, parfois on s'apprécie même. On est très peu gourmand en solutions technico-chimiques, puisque justement le but c'est qu'on s'en passe. Mais après, on s'est fait des partages d'expérience. Et grosso modo, moi, ma petite expérience de vigneron, là, sur une petite dizaine d'années, c'est que grosso modo, il faut vendanger en août maintenant, il faut être prêt au début d'août. Et là, il faut que la cave soit prête début août, hein, pas qu'on la prépare en août.
Le vin, on le fait avec du raisin, et pour avoir un vin de qualité, il faut avoir des techniques de vinification, mais il faut avoir aussi peut-être un raisin de qualité. Comment on fait pour avoir un raisin de qualité sain ?
Alors, sain, voilà. Ça, c'est quoi la définition, raisin sain ? Si sain, c'est un jeu de mots à la mode, sans autre intrant ni sulfite, c'est celui-là dont tu parles. Alors, ce raisin-là, il n'est pas forcément exempt d'attaques d'oïdium, de mildiou, de quelques piqûres de vers de grappe, de choses dans ce goût-là. Le côté sain reste à définir. Qu'est-ce que c'est qu'un raisin sain ? Si le raisin sain, c'est un raisin indemne de toute maladie ou de toute blessure, là, l'idée, c'est un vin avec le moins de... Enfin, je ne suis pas contre la technologie, mais avec le plus d'expression raisin, terre et travail de l'homme et la femme qui s'en occupent. Donc, le côté sain, pour moi, sur mon parcours d'agriculteur depuis plus de 20 ans, c'était de se dire, tous ces produits chimiques, si tu veux, j'en parle un peu. Il y a 20 ans, j'ai acheté, comme certains, la Bible des pesticides. Et puis, je me dis, on va les choisir. Je n'ai pas commencé en bio, hein. On va les choisir moins toxiques pour moi, puis pour la faune, les auxiliaires qui nous servent aussi. On limite les produits. Puis à un moment, on se dit quand même, il n'y en a aucun qui est vraiment innocent. On évite les molécules de synthèse, on va passer aux produits de contact pour être sûr qu'il y en a moins dans le fruit. Parce que quand c'est de contact, on peut dire qu'il ne rentre pas dedans. C'est peut-être illusoire de ma part. Il y a deux choses qui se sont passées concomitamment. Un, j'ai lu les phrases de risque derrière les bidons, ça m'a un peu effrayé. Deux, je suis devenu papa à la même époque. Et la maman, elle m'a dit « Non, tes trucs, là, tes produits, j'en veux pas sur mes enfants. » C'est un facteur qui n'est pas négligeable à l'époque. Donc voilà, je me suis un peu remis en question. Puis j'ai fait une expérience, je rachète une vieille vigne. L'ancien propriétaire me dit « Oh là, il y a des problèmes d'acariens, il faut que tu fasses gaffe aux acariens. » Qui dit maladie, problème d'acariens, dit produits chimiques. J'ai pas mis d'acaricide ou de quoi que ce soit. J'ai pas mis d'insecticide, j'en mets pas depuis 15 ans. Même ceux qu'il faudrait mettre selon les règlements préfectoraux. Et j'ai pas eu de problème d'acariose. Comme quoi, on est dans le traitement systématique de tout, dans le but d'obtenir, comme tu disais, des raisins sains sous l'angle des beaux grains bien juteux, indemnes de maladies. Mais en fait, on a des raisins malades. Et quand on essaie de faire des vinifications sur des raisins malades, après, il faut de la technologie pour attraper ça.
Enfin, les produits chimiques qui sont dans la grappe, elles se retrouvent dans le vin.
Elles se retrouvent dans le vin. Alors, ça, c'est un des premiers trucs qui me posait question. C'est que le vin, c'est quand même un produit de plaisir, de partage. C'est plus un produit aliment comme du temps de Pasteur. Le vin est plus sain que l'eau du puits. maintenant on se pose la question, mais voilà, non, on n'est pas sur cette du temps de Pasteur, même si le bio n'existe pas, tout le monde était au bio. 100 ans avant lui, je crois, comme on n'avait pas trop d'échanges internationaux aussi soutenus, l'oïdium et le mildiou étaient peu présents. L'industrialisation du vignoble dans les années 1850, bon, il y a eu, après on a importé le mildiou, qui vient aussi de là-bas. On a trouvé des solutions. Voilà, c'est le cuivre. Le soufre, bon, on sait que les oïdiums n'y résistent pas depuis la nuit des temps. Donc, bon, on faisait, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Et quand on regarde des bouquins des productions dans les années 1900, ça rigolait pas. Hein. Ils envoyaient du raisin. C'était cultivé à la pioche, ramassé à dos d'homme à la comporte, mais ils faisaient des rendements plus que conséquents, quoi. Donc, ces molécules de synthèse, elles ont facilité peut-être la vie au quotidien des agriculteurs, des paysans, des paysannes, mais elles n'ont pas amélioré ni le produit, ni le niveau de vie de tout ça, quoi. Ça leur a facilité le côté effort physique, hein, le côté laborieux de la chose, mais ça les a pas forcément aidés. Donc, soufre et cuivre, ouais, à la vigne, ça c'est ce que j'utilise. On est dans une zone flavescence, donc j'ai essayé de faire de la prophylaxie, de repérer les souches malades, on les arrache. J'ai fait venir un conseiller, on a fait un tour, il n'y en a pas trop, ou il n'y en a pas du tout. Bon, donc pas d'insecticides, même bio, parce que ça flingue tout. Et donc, des raisins qui sont sains, c'est-à-dire qui sont produits par la souche sur sa parcelle en fonction des conditions climatiques de l'année. Oui, il faut que le sol il soit vivant. Ça, c'est un truc, là, ça fait quoi, une dizaine d'années est-ce que c'est par flemme ou par choix? C'est très technique, le labour. Le vrai labour, chausser, déchausser, griffer, aérer le sol pour faire pousser la vigne. C'est très technique. C'est une technique que j'ai jamais maîtrisée. Et du temps où une vigne bien tenue, il fallait qu'il n'y ait pas une herbe qui pousse, soit par la mécanique, soit par la chimie. Donc ça, j'ai jamais su trop faire. Mais puis les outils type maraîchage qui se sont généralisés, qu'on appelle le rotovator, les trucs comme ça, qui font de la farine, mais qui permettent le semis de tout ce qu'on voudrait détruire, en fait. Bon, c'est pas adapté, en fait, mais ça s'est généralisé aussi. J'ai jamais été trop fan, c'est des outils de rattrapage à utiliser avec modération. Et puis, ça fait une dizaine d'années où je suis passé à la débroussailleuse pour essayer de refaire un paillis. Parce qu'en fait, les sols grillent, donc il ne faut pas qu'ils soient, à mon sens, nus toute l'année. Et puis, s'ils peuvent être un peu protégés en été, c'est pas plus mal plutôt que de... Soit on le laboure régulièrement pour faire cet effet de garder l'humidité en sous-sol, soit alors on fait un paillage dessus qui aide aussi à refaire l'humus, un peu de vie et quelque chose qui marche un peu mieux, quoi. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire. Il aurait fallu faire des analyses il y a 15 ans et voir si les sols vont mieux maintenant. J'ai dans l'idée que ça n'a pas fait trop de mal. Par contre, le changement de régime, quand j'ai racheté des vignes, où c'était labouré, bien désherbé, puis on passe, on change les engrais, voire on n'en met pas, et puis on laisse pousser de l'herbe, plus les, je sais pas, on a eu 10 sécheresses sur les 15 dernières années, au niveau des étés. Et les vignes, elles ont un peu souffert. Je veux dire, c'est le changement de régime alimentaire et de régime hydrique et l'ambiance, ça n'a pas été évident de leur changer leur support.
Comment on la nourrit quand essaie de travailler de façon vertueuse?
Alors, j'essaie de ne pas être donneur de leçons, mais dans l'idée, on essaie de nourrir la terre pour que la plante se nourrisse et que le raisin soit le plus équilibré possible. Pour faire un peu un cycle, donc. Ben, la nourrir, c'est qu'on lui laisse déjà le maximum de ses matières organiques qu'elle produit elle-même, ses sarments, ses feuilles. Bon, bref, on va faire en sorte que ça se décompose sur la parcelle. Parfois, dans les sols déséquilibrés, j'apporte un peu d'amendement pour essayer de que la vie se des fumiers, c'est des composts, c'est des choses comme ça, qui sont conditionnées sous forme un peu plus facile à épandre, parce que déjà, il n'y a pas de troupeau de moutons à proximité. On a un chevrier sur le village, mais je ne sais pas s'il y aurait assez de fumier pour toutes les vignes de la commune. Donc, il faut de la logistique quand on veut avoir du gros, trouver un éleveur. Comme je suis en bio, il faudra qu'il soit en bio, et avoir des engins pour l'épandre, pour faire de l'épandage de masse. Donc, moi, c'est plutôt des produits qui ont été compostés, transformés. C'est plus facile, c'est plus sec, et c'est beaucoup plus cher, mais il n'y a pas tous ces engins de manutention à louer ou à avoir sous la main. Donc ce sont des amendements certifiés bio, bien sûr, d'origine végétale et animale, quoi. On essaie d'éviter les trucs non sourcés, quoi.
Vous les aimez, vos vignes?
Ah, il y en a...
Il y a de l'amour dans le vin?
Oui. Je pense que je ne suis pas le seul à parler à mes souches en plein hiver ou en plein été, surtout quand je les vois qui vont bien ou qui ne vont pas bien. Après, je ne sais pas si c'était... Je pense qu'on le fait tous, éleveurs ou cultivateurs. Là, on a vécu une sécheresse hivernale terrible. Moi, j'avais l'impression de me dessécher en même temps que mes cultures ou que celles de mes voisins, quoi. Peut-être on est plus proche de ça parce qu'on est dedans et on sait ce que ça veut dire. Si c'est sec, on sait qu'on ramassera rien, mais surtout que le végétal manquait de crever, quoi. Donc on a peut-être encore un peu cette proximité que, je veux dire, beaucoup d'entre nous ont perdu en étant des purs citadins, quoi. Donc oui, quand on voit que c'est sec, moi, quand j'entends le beau temps revient, ça fait depuis Noël, le beau temps, je commence à en avoir un peu marre, quoi. C'était de la déshydratation. Non, le beau temps comme critère, c'est-à-dire le soleil et les grosses chaleurs, moi je redoute l'été depuis quelques années.
Et pourtant, s'il y a de la vigne et de l'olivier d'ailleurs dans cette région, c'est bien parce que déjà c'était des régions un peu arides par rapport au reste de la France. On a mis de la vigne et de l'olivier pour plein de raisons, mais aussi parce que la vigne est s'autosuffisée en termes hydriques.
Ah ben de toute façon, même au 19e, je crois que c'est l'olivier en surface cultivée qui devait dominer. Déjà, la monoculture, on n'en parlait même pas, parce qu'il fallait se nourrir sur le territoire. Donc, il y avait de l'élevage, il y avait du fourrage, il y avait des céréales, il y avait de tout. Donc, de l'olivier. La vigne s'est industrialisée à partir du milieu du 19e. C'est quelque chose de relativement récent. C'est un truc tout à fait récent, ce truc-là. Donc moi, je pense que la monoculture, elle s'est imposée par le climat. La vigne est adaptée au climat méditerranéen. L'olivier, par contre, on était en zone nord de la culture de l'olivier. Donc c'était un peu, voilà, il n'y en a pas beaucoup plus au nord. Pour avoir des olives, hein, pas par arbre d'ornement. Donc on se retrouve avec une bonne adéquation à ce climat. Et si on regarde dans les terrasses, les faïs, les sous-bergues qui sont un peu abandonnées, gagnées par la garrigue, les vignes, elles n'étaient pas dans la plaine. Elles étaient dans les coteaux où on n'arrivait pas à faire pousser autre chose. Et dans les plaines, c'était des agrocarburants, du fourrage, de la céréale. Elles étaient vraiment sur ces petites terrasses accrochées aux hauteurs, dans les garrigues, les vignes. Puis elles ont migré, et ça c'est récent, hein, elles ont migré ces 50 dernières années dans la plaine. Avec la mécanisation, avec beaucoup de caves coopératives, s'appellent les coteaux de scie, les coteaux de mie, les coteaux de... Alors que maintenant, ce qui fait les volumes de nos structures coopératives, ce sont les terres les plus fertiles et en plus irriguées. Il faut de l'eau pour l'agriculture de façon générale. Mais justement, on plantait la vigne là où on n'avait pas d'eau. Et là où on avait de l'eau, on faisait peut-être autre chose. Hein. Alors, je ne suis pas un historien. D'ailleurs... Très localement, quand ils ont développé ils ont proposé les premiers réseaux d'irrigation il y a quelques décennies ici, les viticulteurs, qui ont mon âge ou un peu plus âgé ici, ils ont dit on n'en veut pas de l'eau, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va aller se mettre un vendeur de tuyaux et de flotte sur le dos? La vigne, elle pousse très bien, on fait des rendements corrects. Si on la cultive comme il faut, qu'on lui file à manger et qu'on essaie de la protéger du mildiou, de l'oïdium et du ver de grappe, on fait de la récolte. Donc le problème n'est pas là. D'ailleurs, le problème, il n'est toujours pas là.
Et comment on a basculé alors?
C'est une fausse bonne idée très récente. Si on compare avec le Gard, ils ont déroulé des systèmes d'irrigation en quasi-systématique, en disant que ça va sauver l'agriculture et la viticulture locale, on va voir comment la viticulture gardoise se porte. C'est pas moins cassé la gueule qu'ailleurs. Là, on propose de l'eau à la vigne, mais oui, il lui en faut de l'eau à la vigne. Il faut qu'il pleuve, bon, c'est bien. On n'a pas demandé au viticulteur si c'est de l'eau qu'il voulait ou autre chose. Et en fait, le viticulteur, il veut vivre de son métier. Pour vivre de son métier, ce n'est pas de l'eau dont il a besoin, d'après ce que j'ai cru entendre.
C'est du prix.
Des revenus, ouais. Et bon, comme on est dans un système marchand, le revenu, c'est le prix. Donc, parce que même si on met de l'eau, s'il n'y a pas le prix en face, ça ne marche pas. Toutes les évolutions techniques qui ont été qualifiées de progrès, par exemple la mécanisation, elles ont permis de cultiver plus et d'encaisser des baisses de prix. parce qu'un homme seul, ben voilà, on pouvait se passer du cheval, du ramonet qui conduisait le cheval. On a mécanisé, on a viré le personnel, et on s'est dit on peut cultiver quelques parcelles de plus. Et le négociant qui vous en donnait un peu moins du kilo de raisin, ben, on arrivait à supporter, et ainsi de suite. Bon, après, la chimie est arrivée. Toujours pareil. Puis maintenant, certains qui disaient quand on était jeunes, bah, c'était un truc de feignant, les désherbants. Il y en a, ils ont 50, 60 ans, c'est pas des dinosaures. C'était un truc de feignant. Maintenant, ils tous passent le temps avec un pulvérisateur et des solutions chimiques parce qu'il n'y a pas le choix. Les exploitations font des dizaines d'hectares. Ben, c'est infaisable mécaniquement, même avec des outils, même à la pioche, c'est plus faisable. Donc, ils sont dans cette course. Bon, maintenant, le dernier gadget, c'est l'eau. Je dis gadget parce qu'en fait, non, c'est une solution technique. Mais s'il n'y a pas le prix, ça ne change rien. Et en plus, cette eau, on ne leur promet pas de l'eau, on leur a vendu des tuyaux. Et comme on l'entend chaque année, qui c'est qui décide qui aura de l'eau ? Ben, c'est un peu mystérieux. C'est la préfecture qui dit, hop, vous, vous arrosez plus vos jardins, vous, vous remplissez vos piscines, vous, vous avez droit de faire ceci, cela. Là, cette année, dans les PO, les arboriculteurs, on leur a dit moitié d'eau. Comment on fait après quand ils ont des vergers installés dans la vigne, ils veulent se mettre sous cette dépendance-là, alors que la vigne, elle, peut résister à ça. Non, la solution pour la viticulture du Languedoc et d'ailleurs, c'est qu'on paye le travail des paysans et leur coût de revient, et il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement, j'ai l'impression, là c'est mon petit côté militant, Confédération paysanne depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on est peut-être parmi les seuls à vouloir parler du problème du prix. Non, les autres, ils ont des solutions techniques, des tracteurs, des drones maintenant. On est de l'agriculture 2.0, je ne sais pas quoi sert un drone dans la vigne. Des produits, il y en a des milliers. Des machines merveilleuses, c'est des trouvailles fantastiques. Des dettes par milliard, des assurances récoltes, on n'en parle même pas. Mais si on ne peut pas payer tout ça, la meilleure assurance...
Et les subventions de la PAC ?
Ah ben, la PAC, elle sert à financer ça, tout ça. Donc l'agriculteur, là, à mon sens, hein, je me trompe peut-être un peu, il sert juste à tous ces vendeurs de produits, d'assurance, de machin. Il est obligé de souscrire pour continuer à produire dans ce schéma-là. L'argent de la PAC, il fait que lui passer... Je ne sais même pas s'il passe sur son compte directement. Je ne sais même pas s'il passe sur son compte. Parce que c'est des aides à l'investissement. Si, via les coopératives qui ont beaucoup investi... Bon, voilà, on pourrait dire que les coopératives appartenant aux coopérateurs, c'est eux qui en ont bénéficié. Mais c'est... Et puis cette PAC, elle est européenne, mais c'est la France qui décide comment elle l'utilise. Hein. C'est pas l'Europe qui dit « vous faites ça dans la vigne hein. ». L'OCM viticole, elle est voulue par le ministère de l'Agriculture et ceux qui pilotent la viticulture. Donc allez voir la Chambre d'Agriculture. Hein.
Le viticulteur, il se pose quel type de question ? De passer à l'agriculture biologique, c'est pas la question qui vient d'abord. La question qui vient d'abord, c'est comment je vais pour venir le moins ?
Alors oui, voilà, parce qu'en bio, si on ne paye pas le travail en bio, le problème, c'est pareil, c'est exactement pareil. Déjà, s'il a payé ses dettes, c'est pas mal. Mais bien souvent, c'est une course permanente pour se maintenir au niveau. Il y a toujours des lignes de crédit qui ne sont pas petites. Donc celui qui a réussi à gérer sa baraque de façon adroite et qui n'est pas endetté, voire limite surendetté, il s'en sort à peu près. Celui qui est en plein, là, et encore, et là, il y en a qui ont beaucoup investi, et sur les réseaux d'irrigation, dans mon coin, mais ils ont mis des fortunes de leurs sous. Puis après, il y a des fortunes d'argent public pour développer les réseaux, et c'est pas sûr qu'il y ait de la flotte, hein, parce que, bon, ben, après, c'est pas parce qu'il y a un tuyau qui sera plein, et des contrats d'abonnement faramineux, ça frise l'escroquerie dans le coin. Ça frise l'escroquerie par rapport à des systèmes d'irrigation qui sont développés depuis quelques années. C'est une fausse bonne idée, sachant qu'en plus, il n'y a pas des volumes d'eau pour permettre la diversification. Ça, c'est le coût des bassines. On s'est aperçu que là, même dans l'Hérault, c'est une escroquerie, parce que c'est pour apporter 90 mm d'eau sur une année. On ne peut rien faire d'autre que de la vigne, et encore. Très cher, avec un abonnement à vie, des tuyaux à payer... Une infrastructure, il faut des pelleteuses pour mettre les réseaux en place. Hein. Donc beaucoup d'argent public, beaucoup d'argent des paysans, mais c'est énorme. Et le prix, en plus, cette année, c'est encore dans le pompon, il y a dans les tuyaux une distillation à 50 balles l'hecto. Donc ça, on sort un peu peut-être du problème de l'agricole, du syndicalisme, mais irriguer pour distiller, ça va être très difficile que nous, agriculteurs, paysans, paysannes, on explique à celui qui ne doit pas remplir sa piscine que On irrigue pour s'en sortir alors que on utilise de l'argent public de la PAC pour distiller. Et ils vont, on va se faire lyncher par nos voisins qui sont pas paysans, quoi. Ils vont dire, mais attends, moi je remplis ma piscine, tu m'emmerdes. Tu vois, on est dans cette pression là. Et en plus, hein, celui qui met les réseaux d'irrigation, c'est un très très gros investissement. Très gros investissement. Mais s'il n'y a pas le prix, ça ne changera rien. Mais il devra en plus payer son abonnement, ses tuyaux. Mais c'est par milliers ou dizaines de milliers d'euros. Des milliers d'euros par hectare. Par hectare.
Collectivement, comment on s'en sort ?
Déjà, la solution, putain, si je l'avais, j'aurais plein de copains ou plein d'ennemis. La solution, c'est déjà sur le terrain de ne pas être seul dans nos fermes, sur nos vignobles. Parce qu'à un moment ou un autre, on se retrouve avec les lignes de crédit et l'impossibilité de les rembourser et des gestes dramatiques pour des bouchées de pain parfois. Ce n'est pas ceux qui ont le plus de dettes et le plus de patrimoine qui se pendent. Non, mais il y en a qui se disent, mais comment je vais m'en sortir ? C'est pas possible, comment je vais m'en sortir ? Je dois sortir 30 000 par an, je fais 30 000 de chiffres, comment je fais ? Il faut déjà être présent entre nous et voilà, jamais seul. Ça, c'est le côté, on va dire, survie. Après, sur le côté technique, il faut savoir décrypter les bons conseils, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quand on vous conseille telle machine, tel produit, tel process et compagnie, c'est vous qui allez le payer. Donc, il faut un peu regarder ce dont vous avez besoin. Il y en a qui ont gardé leurs vieilles vignes de Carignan, qui ont 60, 70 ans, et bien cultivées, qui produisent encore. Ils n'ont pas fait les arrachages replantations, et du merlot par-ci, et maintenant du sauvignon, et on passe avec des hybrides prochainement. C'est-à-dire, ils ont économisé 3 arrachages plantations, ils ont gardé une récolte. Alors certes, ils sont, paraît-il, un peu à la marge, ils font du rouge qui tâche, mais ils vont, grosso modo, ils n'ont peut-être pas fait le plus mauvais des calculs, parce que ces vieux cépages résistent à la sécheresse. Et tandis que le merlot, il est mûr au 15 août, on le ramasse cramé à la mi-septembre, on fait, allez, on va faire de l'agrocarburant pour les bus de ville. Je n'ai pas la solution, mais quand je regarde autour de moi, sur le village, ils sont pas rares les viticulteurs qui ont développé les vergers en vente directe. Ils ne le clament pas sur le plan de la copée, mais je ne suis plus trop coopérateur, mais un peu quand même. Ils ont planté leurs vergers, cherché leur réseau de commercialisation, ils se sont démerdés. Il y en a qui ont fait de l'asperge, parce que c'est des cultures qui alternent bien avec le rythme de la saison viticole. Il y en a qui font de l'oléiculture. Alors souvent, il y avait des arbres au bord de vigne, donc bon, mais il y en a qui le font, on va dire, de façon un peu plus intensive, avec plus d'arbres pour produire un peu d'huile et la commercialiser. Donc il y a ça, il y a ceux qui avaient de grosses surfaces foncières qui s'essayent un peu à faire de la céréale, du légume sec. Mais par contre, quand on fait ça, il ne faut pas s'aligner sur le marché mondial de la céréale qui est je ne sais pas où sur la planète. Il faut aller jusqu'à la transfo. Parce que si c'est pour balancer la farine à 1 € le kilo, ils ne s'en sortiront pas.
Et donc, là, on parlait du monde agricole et les consommateurs, ils ont un rôle à jouer.
Ah oui, mais ils ont un rôle à jouer et il faudrait que nous, producteurs, là, localement... C'est ça qui est bien quand on va jusqu'au producteur final, il vous dit s'il aime ou s'il n'aime pas votre produit. Je fais peu de marchés, mais grosso modo, les 2 marchés urbains que je fais par mois, la consommation de la bière, c'est énormément développé. Il y a beaucoup de brasseries artisanales qui se sont montées. Les jeunes, je dirais des trentenaires, des quarantenaires, avec un pouvoir d'achat montpelliérain qui, à mon avis, n'est pas celui d'un viticulteur de Saint-Pargoire, qui gagnent bien leur vie, qui habitent dans des petites maisons restaurées avec jardin, des enfants, tout ça. Il y en a 1 sur 10 qui, quand c'est le soir du marché, prend un verre de vin ou achète une bouteille. 1 sur 10. Les 9 autres, ils vont s'acheter à la brasserie ou aux brasseries une bouteille de bière ou un verre de bière. Voilà, le marché de masse, s'il est rémunérateur, ben pourquoi pas, allons-y, continuons. Mais il se trouve que les faits sont têtus, comme disait je ne sais plus qui, mais il n'y est plus ce marché-là. En Occident, il n'y est plus, et les nouveaux consommateurs ne sont pas des gens qui boivent leur litron le midi sous le soleil et la bouteille le cacheté pour le dimanche. Ça n'existe plus. Je ne sais pas s'il y a trop de vignes, ou en tout cas, c'est quand même les viticulteurs qui les plantent. Donc ils ont quand même l'espoir de vendre leur production ou je ne comprends pas. Je ne sais pas. Il faudrait aller peut-être leur poser la question. Il y a l'idée de renouveler toujours pour coller aux attentes du marché. D'ailleurs, même sur les formulaires administratifs qu'on leur refile, là, il y a marqué « pour répondre aux attentes du marché ». Il n'y a jamais marqué « pour répondre aux besoins du viticulteur et du paysan hein. ». C'est « pour répondre aux attentes du marché ». Le marché, il n'y a pas plus difficile à cerner. Mais on va dire les metteurs en marché. Mais c'est marqué noir sur blanc, ils n'ont plus aucun complexe maintenant. Les papiers qui nous arrivent par la chambre, pour répondre aux attentes du marché. Sympa.
Alors à propos de marché, le vin de Thierry Arcier, on peut le trouver où ?
Alors, j'espère qu'on va continuer à en trouver parce que sécheresse sur sécheresse, j'arrive pas à décoller au niveau volume de production. Alors, localement dans l'Hérault, je participe avec des collègues sur une boutique de producteurs sur l'Audève. Boutique de producteurs, ça veut dire qu'on la tient à tour de rôle et on vend nos produits à tour de rôle. Sur ce magasin. Il y a aussi quelques cavistes qui sont, il y a sur l'Audève, il y a du côté depuis Salicon, à Montpellier. J'ai trouvé quelques points de vente locaux. À la maison, si les gens veulent bien m'envoyer un message, je fais une petite dégustation, je fais un peu de vente directe. Pour l'Hérault, voilà comment je le vends. J'ai quelques cavistes sur d'autres départements, mais je vends, on va dire, quasi exclusivement en France, quoi.
Thierry Arcé, merci, on n'aura pas eu le temps de parler des oliviers.
Ah ben
ce sera pour une prochaine fois.
Ce sont des bébés, ils n'ont que 15 ans. Mais ils commencent à donner. Et l'huile, pareil, pas de traitement.
Thierry Arcé, merci.
Merci.
C'était Thierry Assier, un portrait d'agriculteur réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Tous les podcasts sur rphfm.org.